Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons notre étude de la consécration à la Très Sainte Vierge et nous arrivons à la deuxième période de préparation que nous recommande Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous vous rappelez, la première période, c'était de se vider du monde. Bon, nous avons fait une petite interruption à cause de la fête du Christ Roi, puis de la Toussaint, et nous reprenons le fil de notre préparation. Après nous être vidés du monde, il s'agit de nous connaître nous-mêmes. Pourquoi nous connaître et non pas nous vider de nous-mêmes? Parce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous demande de comprendre les choses. Si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas entrer dans les vues de Dieu. Or, le but de la consécration est de nous faire entrer dans les vues de Dieu. Il y a une très grande ressemblance entre la consécration à la Sainte Vierge et les exercices de Saint Ignace et également le rosaire de Notre-Dame. Dans tous les cas, il s'agit d'entrer dans les vues de Dieu. Bien sûr, il s'agit d'obéir, de se soumettre, mais nous ne nous soumettons pas aveuglément. Ce qui ne veut pas dire que nous choisissons de nous soumettre ou pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Que sommes-nous? Nous sommes tout d'abord des créatures. Avant de considérer que nous sommes des hommes, ce qui est vrai, nous sommes tout d'abord des créatures. Vous avez d'un côté le Créateur, de l'autre côté toutes les créatures. Or, quelle est la définition de la créature? C'est d'avoir tout reçu du Créateur. Le Créateur, lui, n'a rien reçu de rien ni de personne parce qu'il est la perfection infinie. Et lorsqu'il crée, c'est en toute liberté. Il n'est absolument pas déterminé à créer. Il n'en a pas besoin. Et il va créer pour associer la créature à sa perfection, pour la faire entrer dans ses vues. La conséquence de cela, c'est que la créature a tout reçu de Dieu et il est important de nous le rappeler, de méditer un petit peu sur cela. Je sais bien, nous ne le faisons peut-être pas très souvent et cependant, c'est très important. Monseigneur Lefebvre nous en parlait régulièrement. Et si vous lisez Monseigneur Lefebvre, nos rapports avec Rome, vous trouverez tout un chapitre, bon, disons un article de développement sur ce sujet. Dieu est l'être qui existe par soi, par lui-même, et nous sommes ceux qui existons par un autre, c'est-à-dire par Dieu. Non seulement Dieu nous a donné notre nature, parce que si nous sommes hommes, c'est parce que Dieu a fait la nature humaine, Dieu l'a déterminée ainsi, mais Dieu ne nous a pas donné que la nature. Il nous donne l'existence, il continue à nous faire exister, c'est-à-dire que nous sommes dans la main de Dieu continuellement. Si Dieu cessait de penser à nous, nous tomberions dans le néant. Je vais même plus loin, si Dieu, par exemple, prenez une maman qui a eu plusieurs enfants. Si Dieu cessait de penser aux enfants de cette maman, eh bien, elle-même ne pourrait même plus y penser. On lui dirait, Madame, avez-vous eu des enfants? Et elle répondrait, non. Comment voulez-vous que nous pensions à quelque chose à quoi Dieu ne pense pas? Et nous dépendons de Dieu non seulement dans notre existence, mais nous dépendons de Dieu également dans nos actions. Je vais vous prendre un exemple. C'est la fête des mères, supposons, enfin nous en sommes loin aujourd'hui, mais supposons que ce soit la fête des mères ou la fête de la maman, tout simplement. Alors le papa appelle son grand fiston et il lui dit, c'est la fête de maman. Bah oui, papa, j'y avais pensé, bien sûr. Alors qu'allons-nous faire pour maman? L'enfant dit, j'ai entendu maman dire qu'elle aimerait bien avoir un meuble dans sa cuisine à côté de la machine à laver la vaisselle. Alors très bien, dit papa, très bonne idée. C'était lui qui avait suggéré à la maman de lancer cette idée, sachant que le fils la recueillerait. Et alors que fait-on, mon fils? Ah ben je sais pas, moi. Alors le papa va faire avec le fils les plans. Et quand on a fait les plans, il faut aller chez le marchand à acheter le bois, et puis les charnières, et puis les vis, et puis une scie cloche. Une scie cloche, parce que comme le meuble est à côté de la machine à laver la vaisselle, il y a les tuyaux à passer. Et il va falloir un petit trou de perceuse, ça ne suffit pas. Il faut au moins un diamètre de 36. Alors on va acheter une scie cloche. Et alors, l'enfant avec le papa vont chez le marchand, ils achètent tout cela. Le papa rentre le soir et dit à l'enfant, écoute, il est tard, ce n'est pas le moment de s'occuper de cela. Demain, c'est samedi, nous en occuperons. Nous aurons tout le temps de préparer le cadeau de maman. Et alors, vous avez le gamin qui n'y tient plus. Lorsque le père a le dos tourné, alors il regarde les planches, tout cela, et puis la scie cloche, et puis il se dit, ben, je vais avancer le travail, et puis je vais préparer au moins le trou pour le passage des tuyaux. Il prend la scie cloche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sur une scie cloche, on met au centre une mèche qui sert de guide, d'axe. Il faut un axe. Et papa ne l'avait pas acheté parce qu'il l'avait déjà dans ses affaires, dans ses outils. Et alors voilà notre jeune qui, avec la scie cloche, fait son trou. La scie cloche dérape de tous les côtés. Elle raye le bois. Et puis alors on a un trou, au lieu d'un trou de 36, on a un trou de 50. Et encore, je suis bon parce que s'il était régulier, il ferait 50, mais il n'est même pas régulier. Cette histoire est un petit peu la nôtre. Le bon Dieu veut nous donner la capacité de faire le bien, de nous enthousiasmer pour le bien. Et il va nous donner, pas seulement le bois et la scie cloche, il va nous donner toutes les choses qui sont ici-bas. Mais tout cela a un but. Le but, c'est de faire plaisir au bon Dieu. De faire plaisir au bon Dieu, d'entrer dans les vues de Dieu. Il s'agit évidemment pas, bon, mon exemple n'est qu'un exemple. Maintenant, vous pouvez le transposer. Les âmes à sauver, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu nous a donné tout cela, nous avons été créés pour cela, créés pour le règne de Jésus-Christ. Je sais bien que Saint Ignace nous dit que nous avons été créés pour nous sauver, mais il faut bien comprendre ce que c'est que le salut. C'est comme si nous disions que nous avons été créés pour l'honneur. Il y a honneur et honneur. Il y a l'honneur qui vient de nous, qui est un faux honneur, et puis il y a l'humilité qui nous soumet au bon Dieu, et là est le véritable honneur. Donc nous avons été créés par Dieu, pour Dieu, et le bon Dieu nous donne tout ce qu'il nous a donné, pas seulement la scie cloche, je vous l'ai dit, c'est-à-dire tout ce qu'il a créé sur la terre, mais également notre intelligence. L'intelligence de l'enfant a saisi ce que sa maman, ce que son papa attendait de lui. C'est quand même extraordinaire. Nous trouvons ça normal. Enfin, voici un enfant qui entre dans les vues d'un adulte. Après ça, il s'en échappe. Et nous pouvons entrer dans les vues de Dieu. Malheureusement, nous sommes faibles et il nous est facile d'échapper aux vues de Dieu. Alors, quel va être le but de la consécration à la Sainte Vierge? La Sainte Vierge va être auprès de nous, comme la maman, comme la grande sœur, que sais-je. Vous pouvez, dans mon exemple, évidemment, j'ai dit que le meuble était pour la maman. Mais la Sainte Vierge va être auprès de nous, comme notre Seigneur a été envoyé auprès de nous pour nous guider, pour faire plaisir au bon Dieu. La Sainte Vierge, la première chose qu'elle va faire, elle va nous faire comprendre que notre vie n'est pas pour nous, elle est pour Dieu. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, je voudrais leur faire remarquer quelque chose à propos de leur choix de métier et de leur choix d'état de vie pour leur avenir, ce qu'on appelle l'avenir d'un jeune. Beaucoup de jeunes se déterminent en fonction de leur intérêt. Alors, l'un aime être paysan, l'autre voudrait être informaticien, parce que peut-être croit-il que l'informaticien se donne moins de mal que d'autres. Le troisième voudrait être pompier, le quatrième militaire, et tout ce que vous voulez. Alors, évidemment, nous leur rappelons qu'il faut faire la volonté de Dieu. Et ces jeunes vont facilement s'imaginer que nous leur parlons de vocation religieuse ou sacerdotale. Mais avant de parler de vocation religieuse ou sacerdotale, nous leur parlons tout simplement d'entrer dans les vues de Dieu. La première chose, que Dieu attend-il de nous ? Même si je ne suis pas religieux ou prêtre, Dieu m'a-t-il donné des qualités ? Dans quel sens veut-il que je les utilise ? Nous sommes à une époque de crise terrible. Il est évident que lorsque la situation est aussi dramatique, cela impose des choix d'état de vie qui sont ceux qu'on n'aurait peut-être pas fait en période de paix et de calme, et qui s'imposent malgré tout. Je ne sais pas, les enfants de Saint-Jean Bosco, par exemple, lors de la crise du choléra à Turin, la situation de l'épidémie terrible impose aussi bien à Don Bosco qu'à ses enfants d'aller soigner les colériques. On ne se pose pas la question de savoir si on aurait aimé faire autre chose, si le programme était d'aller en classe, ou que sais-je, ou si on a prévu de se marier. On va soigner les colériques. Saint Jean Bosco a obtenu un petit miracle du bon Dieu. Aucun de ses garçons ne fut atteint par la contagion. Il ne leur avait promis. Mais même si on est atteint par la contagion, nous sommes au service de Dieu. Quand je dis service, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Nous devons bien nous rendre compte que Dieu établit son règne dans le monde et que nous sommes associés à l'établissement de ce règne. Alors, c'est bien gentil d'être militaire, mais bon, on peut se poser la première question, qui sert-on ? Et puis on se pose la deuxième question, ma famille va continuellement être en déplacement au gré des mutations, est-ce un bon moyen pour enraciner une chrétienté et faire quelque chose de profond. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. J'ai un très bon confrère dans la fidélité, dont le père était militaire et certainement ça lui a beaucoup apporté. Parce que justement, il était aux colonies et que cela, la sortie de l'esprit bourgeois qui nous tue tous aujourd'hui. Alors, comment vais-je établir ? Je me rappelle d'une jeune fille. Elle était institutrice. Le poste était très difficile, les enfants difficiles, le directeur également. Elle avait envisagé de quitter son poste. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, si c'est trop dur, pourquoi pas ? Et puis finalement, elle s'était ressaisie. Elle m'avait dit, non, monsieur l'abbé, il y a besoin d'institutrice. Ce poste restera vacant. Tant pis, je fais ce qu'il faut, et puis je supporte ce qu'il y a à supporter. Je reste à ma place. Elle n'a pas perdu sa récompense. Elle était comme beaucoup de jeunes filles, elle craignait de ne pas se marier. À deux jours de distance, elle a reçu deux lettres de deux prétendants qui, tous les deux, lui demandaient sa main. Il y en avait un qui était ingénieur et puis l'autre qui était paysan. Alors elle vient de me voir, elle me dit, monsieur l'abbé, je suis bien embêté. Quel est votre avis ? Je lui dis, mademoiselle, moi j'ai pas d'avis, c'est pas moi qui me marie. Ce que je peux vous dire, c'est que vous vous mariez pour fonder une famille, et voilà le type de famille que vous allez fonder avec cet ingénieur qui est brillant, qui est nommé à l'étranger, qui va certainement avoir plusieurs places à l'étranger, qui va vivre en ville, et puis voilà le style de famille que vous aurez avec le paysan qui va recevoir la ferme de son père, qui probablement la tenait lui-même de son grand-père. Ça ne sera pas très valorisant aux yeux du monde, certainement. Le premier, si, c'est évident, mais celui-ci n'est pas très valorisant aux yeux du monde. Mais vous allez construire quelque chose, vous aurez les moyens, vous aurez la campagne pour former les enfants et non pas la ville. Je lui décris comme cela le deux styles des deux familles. Elle m'a avoué plus tard que, pendant que je lui parlais, tout la poussait à accepter la main de l'ingénieur qui était si valorisant, et en même temps, la voix chrétienne lui disait non, c'est le paysan qu'il faut que tu prennes. Alors, elle a dit non à l'ingénieur, elle a dit oui au paysan. Et plus tard, elle m'a dit, peu de temps après, elle m'a dit, Monsieur l'abbé, je ne regrette pas. Tout me poussait dans les bras de l'ingénieur, et bien j'ai fait le bon choix avec le paysan. Voilà, c'est pas une question d'abord de vocation religieuse. C'est d'abord une question d'entrer dans les vues de Dieu, de comprendre les belles et grandes choses que le bon Dieu fait ici-bas. Après ça, évidemment, dans les vues de Dieu se trouve également que Dieu veut un certain nombre de religieux, un certain nombre de prêtres, beaucoup de prêtres même. Et Saint Jean Bosco disait un garçon sur quatre a la vocation. Saint Jean Bosco a eu 4 000 vocations sacerdotales de son vivant, 4 000, sans compter les vocations religieuses et sans compter les vocations qui ont germé sous son influence sans qu'il n'en soit à l'origine directement. Je me suis adressé aux jeunes, mes bien chers frères, je pense que les parents, d'abord les parents, pour première tâche de faire comprendre ces choses-là aux jeunes, je pense que vous pouvez faire l'application également pour vous-même, pour les adultes. Alors, vous vous rendez bien compte que entrer dans les vues de Dieu, et je vais bientôt terminer, entrer dans les vues de Dieu est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Bien sûr, nous avons la foi qui nous le montre, mais enfin, la foi, tout en étant très claire et très certaine, nous dépasse considérablement. Et puis, deuxièmement, il y a notre nature qui est faible. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux, disait saint Paul. Nous avons besoin d'être épaulés, garantis, d'être encouragés. Et puis, troisièmement, nous verrons ça la prochaine fois, il y a tous ces maudits péchés qui ont laissé dans notre âme des blessures, des graves blessures. Blessures qui font que nous allons volontiers vers le mal que nous ne voulons pas et que même, hélas, quelquefois, nous aimons le mal que nous devrions ne pas aimer et nous n'aimons pas le bien que nous devons aimer. Alors, la Sainte Vierge nous a été donnée par le bon Dieu. Elle va commencer par nous montrer, nous enthousiasmer pour le service de Dieu. Elle va nous montrer la grandeur, la beauté de l'œuvre de Dieu. Quand il s'agit surtout du salut des âmes, de la rédemption, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin l'incarnation d'abord, la rédemption par la croix, elle va nous montrer à quel point tout cela est beau. Et n'ayez pas peur que je vous parle de la croix qu'il faut porter. Je vous ai fait un sermon le 1er novembre sur la joie de pleurer, d'avoir faim et soif de la justice, etc. Eh bien, c'est le moment de le mettre en application. Et puis enfin, la Sainte Vierge va nous assurer le salut, elle va nous assurer la persévérance, elle va nous protéger contre nos propres faiblesses, elle va guérir nos blessures. Alors, pendant les 8 jours qui viennent, puisque je vous conseille de vous préparer à la consécration à la Sainte Vierge au même rythme que nous faisons nos sermons, alors je crois que vous pouvez méditer d'une part sur la grandeur du plan de Dieu. Deuxièmement, sur le fait que ce plan vient de lui et que c'est lui qui nous appelle à entrer dans ses vues. Nous n'avons rien de nous-mêmes, et si ce n'est le péché, hélas. Troisièmement, que nous sommes hélas bien, bien faibles face à cette chose merveilleuse, le salut du monde, et qu'il faut absolument que nous prenions les moyens de nous enthousiasmer et d'assurer la splendeur d'assurer je dis pas le succès parce que je voudrais pas utiliser des termes trop humains, d'entrer dans les vues de Dieu, tout simplement. Demandez bien à la Sainte Vierge de vous aider, demandez bien à la Sainte Vierge de vous enthousiasmer surtout, hein. C'est pas d'abord une question de courage, c'est d'abord une question de conviction, d'enthousiasme. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.